France Culture. Les midis de culture. Marie Sorbier.
Bonjour à tous et bienvenue dans les midis de culture. Prenez place autour de notre table. À 13h, je recevrai l'acteur Melville Poupeau pour son rôle dans le film de Dominique Bommard, Les règles de l'art, en salle mercredi 30 avril. Mais d'abord, place à l'esprit critique, au programme deux séries très attendues et qui savent faire parler d'elles. Black Mirror, saison 7 de Charlie Brooker, les 6 épisodes sont disponibles sur Netflix, et la saison 2 de The Last of Us, de Neil Druckmann et Greg Mazin, en cours de diffusion sur Max. Et nos deux critiques du jour en studio avec moi, Guillaume Aurignac, bonjour.
Bonjour.
Cinéaste et critique de cinéma, et Joseph Goune, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur adjoint de la rédaction de Madame Figaro. Bienvenue à tous les deux.
We'd like to welcome you back.
Ready?
Yeah. 3, 2.
And action.
They call it mind expanding. It alters your neuronal structure. The mind is a computer.
Computer.
Suddenly, we're not just more receptive. You become a receiver.
On est parfois obligé de faire des choses qu'on n'a pas envie de faire.
Je veux quelque chose de prodigieux. Intemporel.
Venez, suivez-moi.
On sera tous des cyborgs dans peu de temps.
Oui. N'oubliez pas qu'ils sont générés par l'IA.
Pour eux, tout ça est réel.
Prête ? Je suis toute oui.
Les enfants adorent le miel. C'est pour ça que les parents aiment les miel nuggets. La plus douce façon de démarrer la journée.
Depuis la première saison, Black Mirror, série britannique de science-fiction, interroge nos usages des nouvelles technologies. Chaque épisode est indépendant, pas de personnages qui reviennent, ni d'histoires qui se suivent. Chaque opus est un film en soi et propose une anticipation, souvent vertigineuse, de notre futur très proche. Si la saison 6 penchait vers l'horreur, la nouvelle saison revient aux sources avec une approche qui se veut plus proche des émotions humaines. Un premier avis rapide. Guillaume, qu'avez-vous pensé de cette dernière saison ?
Je pense qu'elle accuse un peu son âge et qu'elle parle un peu de son obsolescence. Heureusement, comme toujours dans Black Mirror, il y a un ou deux épisodes qui sauvent le tout.
Joseph, un premier regard ?
Alors je suis moins, moins dans l'obsolescence, parce que je trouve que cette, moi j'avais un peu abandonné les saisons précédentes, et là celle-ci m'a totalement subjugué par ce qu'elle raconte, pas tellement sur le futur qui arrive, mais surtout sur nous maintenant aujourd'hui.
Alors Guillaume, quand la première saison est arrivée il y a 10 ans hein, maintenant, ouais. Nous étions à la fois effrayés et fascinés par ce que mettait en scène la série. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui ? Est-ce que c'est ça que vous appelez l'obsolescence ?
Pour moi, la série souffre de deux problèmes liés à cette obsolescence. Donc effectivement, elle a été créée en 2011. Et depuis 2011, j'ai pas l'impression que les changements technologiques ont été si fulgurants, si renouvelés, que ça ait permis un renouvellement de l'imaginaire de la série. Donc on a l'impression d'une forme de redite dans certains épisodes, qu'on retrouve des épisodes qu'on a déjà vus, un univers qu'on a déjà vu, des technologies déjà balisées par la série. Et le deuxième point, c'est que, je pense que tout le monde l'a constaté, ces derniers mois, ces dernières années, il y a une accélération considérable des événements historiques, et cette accélération se fait sur un plan politique et géopolitique, et pas du tout technologique. Alors évidemment, il y a des soubassements technologiques à ces bouleversements-là, mais il me semble que du coup la série est un petit peu à côté, fait un petit écart par rapport à ça, elle est un peu perdue. Et je trouve qu'à la fin, ça a des conséquences sur certains épisodes. D'abord, il y a des effets de répétition. Il y a un épisode qui s'appelle USS Callister, au-delà de l'infini, je crois, au cœur de l'infini, et qui en fait reprend un univers d'un épisode de la 4e saison. Donc on a l'impression qu'il était déjà lui un pastiche de Star Trek, et donc on a l'impression l'impression qu'on arrive à une forme de pastiche de pastiche. Ce qui est jamais très bon, très bon signe pour la vitalité d'une série télévisée, je trouve. Outre ces effets de répétition, il y a aussi un épisode qui s'appelle « De beaux jouets » ou « De simples jouets ». Et dans cet épisode, on a l'impression de retrouver l'univers du hacking des années 90, donc du 20e siècle. Et si bien qu'on n'est même pas dans une sorte de futur proche, on n'est pas dans le futur, futur proche, on est vraiment dans le futur antérieur, c'est-à-dire le futur tel qu'on l'imaginait dans les années 90. Et là, ça crée un effet de répétition, d'englument dans l'histoire un petit peu, qui n'est pas très innovant, je trouve,
pour la série. Mais ce que vous dites, c'est que finalement, la réalité va plus vite que la série ?
Bah, probablement. Enfin, là, sur les questions technologiques, la série n'invente rien. Elle est déjà un peu perdue. Alors, du coup, comment elle compense ça ? Elle compense ça, à mon avis, par une sorte d'hypertrophie narrative. Il y a beaucoup d'épisodes où je trouve il y a une sorte d'emphase narrative, un peu une sorte de délire dans les twists, dans les retournements, qui fait que, émotionnellement, moi, j'étais pas très sensible à ça. On a l'impression d'un artifice constant. Il y a 4 épisodes qui sont comme ça, où on sent l'artifice. Heureusement, et c'est un peu ce que je disais au début, il y a 2 épisodes, le premier et je crois le quatrième, Elegie, oui, qui sont, à mon sens, parmi les meilleurs épisodes de la série, notamment le premier, Des gens ordinaires.
De toutes les saisons confondues.
Oui, de toutes les saisons confondues, le premier, Des gens ordinaires, je le trouve absolument magnifique. Magnifique au sens où...
Vous pouvez nous le résumer en 2 mots, peut-être le...
Oui, alors Des gens ordinaires, c'est l'implantation d'un processeur à l'intérieur d'un cerveau de quelqu'un qui a une tumeur, sans ça elle mourrait, et ce processeur est lié à un système d'abonnement par souscription et dont elle est totalement dépendante finalement pour sa vie. Alors évidemment, quand on raconte ça, ça raconte quoi ? Notre dépendance à Netflix, c'est l'ironie de cet épisode-là, qui est quasiment critique sur le système de souscription mis en place par Netflix, le producteur et le diffuseur de la série, mais surtout qui raconte que les gens ordinaires, donc c'est des pauvres gens, ces pauvres gens sont dépendants du capitalisme, de la tech, et cette dépendance-là, on la vit tous les jours aujourd'hui par des systèmes de souscription, et qui font qu'ils vont arriver à une humiliation, mais une humiliation consentie, qui est la pire forme des humiliations. Et je trouve que ça raconte parfaitement cette époque-là, en faisant un léger décalage par rapport à une matière technologique qu'on connaît. Et c'est vraiment l'essence de Black Mirror. Et là-dessus, la série a retrouvé cette essence-là dans ce premier épisode.
Alors Joseph, puisqu'on rentre dans la chair des épisodes, je voulais parler avec vous du troisième, qui s'appelle Hôtel Rêverie, qui propose, il me semble, plus une anticipation plus nostalgique que névrotique. Est-ce que... Cet épisode-là, précisément, vous a séduit ?
Moi, j'étais extrêmement séduit par cet épisode, mais aussi par toute la saison. Et j'ai l'impression qu'en fait, tous les épisodes sont reliés. En tout cas, moi, j'y vois un vrai lien, et ce lien avec plusieurs thématiques, mais c'est un lien où j'ai l'impression que l'exploration, c'est celle de l'homme dans la machine. L'homme dans l'intelligence artificielle, et comment tout ça est en train de se structurer, de se modifier et de nous métamorphoser. Et je trouve que le troisième épisode est assez emblématique de ce qui se passe là, puisqu'il va chercher effectivement dans la nostalgie au début, puisque c'est en gros le pitch, c'est on assiste à une rencontre entre quelqu'un qui a une nouvelle technologie et quelqu'un qui possède des droits de films anciens qui sont totalement désuets et qui ne trouve plus personne pour les regarder. Et là, la nouvelle technologie permet d'implanter un nouvel acteur à l'intérieur du film ancien et donc de faire revivre tout cela. Ça part de quelque chose qui est extrêmement présent dans notre société, c'est-à-dire la rétromania, la nostalgie, le fait que l'on vit en permanence dans la nostalgie et qu'est-ce qu'on en fait. Ce qui se passe, c'est que dans cet épisode, on voit une actrice d'aujourd'hui rentrer dans la machine. Elle rentre dans le film qui est rejoué en fait par de l'intelligence artificielle, par de l'IA, et cette IA en fait, elle recrée des personnages. Et il se passe quelque chose entre la personnalité réelle qui est transportée dans le film et l'IA, une histoire d'amour. Et moi, ce que j'ai trouvé absolument sublime, c'est le personnage. Fabriqué, le personnage artificiel d'une actrice qui a existé, qui d'un coup se pousse les portes, se promène dans ce paysage qui en fait est un paysage faux, puisque c'est un paysage de pellicule recomposé, et d'un coup on la trouve un peu au milieu de la data, au milieu des données, et comment représenter ces données, et qu'est-ce qu'elle fait là en fait. Et on sent qu'elle est bouleversée. Et moi c'est ça qui m'a vraiment touché, c'est-à-dire qu'en fait dans cette série, mon impression c'est que Il y a une inversion des choses. On a toujours tendance à dire qu'il y a un fantôme dans la machine. Là, j'ai l'impression que le fantôme dans la machine, c'est l'humain, en fait. Et que c'est nous qui hantons ces personnages-là, et que ces personnages-là sont en train de prendre une vie à eux. Et c'est dans ce sens-là que je vois vraiment quelque chose de l'anticipation et du futur. Et ça, je l'ai vu à chaque fois, dans chaque épisode. Pour moi, chaque épisode, c'est vraiment cette question de comment est-ce que l'humain vit dans la machine? Comment est-ce que l'humain vit dans cette IA? Qu'est-ce que l'humain fait à l'IA? Et effectivement, ça part. Je comprends tout à fait ces racines des années 90. Ça part de là, puisque dans les années 90, et tout cet épisode, et pour moi, est fondamental, parce qu'en fait, il part d'un moment dans notre inconscient de création de cette idée de cette notion même de l'IA qui s'est cristallisée à un moment dans un endroit très spécial, très spécifique, qui était l'Angleterre de la musique électronique de cette naissance-là, et où on avait toute cette idée de la musique créée comme ça. Et cet épisode, il montre la dégénérescence de ces idées-là. Et pour moi, toute cette série, elle est sur ça, en fait. Elle est sur la dégénérescence. Et même le dernier épisode, qui est une continuation, et donc, en fait, un peu, effectivement, un pastiche, une redite de cet épisode qui déjà pastichait Star Trek, il n'est que sur ça, sur la dégénérescence et sur cette façon, finalement, de voir l'humain se terminer. Ça m'a profondément bouleversé.
Guillaume, est-ce que vous êtes d'accord sur cette présence peut-être plus accrue de l'humain ou de l'humanité dans cette saison de Black Mirror, peut-être à défaut des nouvelles technologies, mais est-ce que l'humain est plus présent?
Alors, il est clairement plus présent dans cette saison que la saison précédente. Le problème, je maintiens, c'est que en fait, j'ai eu du mal à avoir une projection émotionnelle sur la plupart des épisodes, parce que j'ai l'impression d'une construction narrative qui est très artificielle. Alors effectivement, théoriquement, je serais plutôt d'accord avec Joseph sur ce que ça raconte, mais pour moi, ça paraît très théorique et très sous une forme d'idée.
Mais même sur ce troisième épisode, vous n'avez pas été
ému? Oui, parce que ce troisième épisode, j'ai l'impression que ça ne correspond à rien d'un sentiment vécu chez le spectateur. C'est une sorte de fantasme, c'est vrai, c'est un fantasme probablement existant, de vouloir rentrer dans un film et dans le passé de ce film-là.
Woody Allen nous avait fait sortir
exactement,
un personnage.
Exactement. Mais ce fantasme-là appartient à une sorte de sphère. Là, on est à Hollywood, Los Angeles. On a l'impression que ça ne peut pas nous toucher émotionnellement et personnellement, en fait. C'est vraiment une sorte de fantasme un peu hypertrophié. Et c'est ce que je reprocherais à cet épisode-là. C'est-à-dire que je vois bien l'idée, je comprends le concept, je comprends ce qu'il théorise, mais je ne comprends pas émotionnellement ce qu'il me raconte à moi. Ce qui n'est pas le cas du premier épisode et du cinquième épisode, parce que j'avais dit le quatrième tout à l'heure. En fait, c'est le cinquième épisode élégique et que je trouve aussi très très beau.
Est-ce que vous diriez quand même que cette série, elle est toujours là pour nous faire prendre conscience, nous spectateurs de 2025, des choses qui pourraient mal tourner dans nos technologies quotidiennes? Est-ce qu'elle est toujours éveilleuse de conscience ou plus?
La réalité, c'est que ça a mal tourné.
Ça
commence à mal tourner. Donc, c'est là où je disais, est-ce qu'elle n'accuse pas son retard? C'est-à-dire qu'au moment de créer ça sous forme de dystopie avec des petits objets technologiques qui sont un peu plus avancés que ceux qu'on connaît aujourd'hui.
Mais à peine.
Et qui, en fait, qui tire le fil de ce qu'on connaît aujourd'hui. Est-ce qu'en fait, elle n'est pas déjà un peu dépassée vu les derniers événements? Moi, j'ai un peu ce sentiment-là. Et c'est en même temps, c'est ce que je disais sur le premier épisode, c'est que c'est just on time, quoi. Le premier épisode raconte vraiment exactement la situation dans laquelle on peut se trouver aujourd'hui.
Joseph.
Et même ce cinquième épisode que moi j'ai trouvé vraiment très très beau.
Peut-être rappeler en un mot le cinquième épisode pour.
C'est un homme qui a l'air de vivre de façon plutôt solitaire, comme ça, qui doit avoir la soixantaine, 65 ans, quelque chose comme ça, et qui est contacté par quelqu'un qui lui dit ma mère est morte, on essaye de reconstituer des choses, est-ce que vous avez quel souvenir vous avez d'elle? Et on lui envoie un petit objet qu'il met sur sa tempe et il regarde des photos et cet objet qui est une IA, enfin qui il y a plein de twists après, lui permet de replonger dans ses photos et de les revivre et d'être à l'intérieur des photos. C'est un peu le même principe finalement que dans l'épisode sur le cinéma. Mais il est à l'intérieur et il revit des choses et il revoit des petits chapitres de sa vie et il comprend des choses qu'il a vécues. Donc il réalise des choses qu'il a vécues et il réalise des choses qu'il aurait pu vivre. Et il réalise aussi là où les chemins ont un peu divergé, mais ils ont un peu divergé parce qu'il est humain. Et c'est ça qui est assez beau dans cet épisode-là, et pour moi dans le reste de la série, c'est-à-dire qu'en fait à un moment on fait des choix, ils divergent, mais aujourd'hui on est armé avec des technologies qui nous permettent de revoir ce passé-là, et que finalement on vit en permanence avec ce passé, et que ce passé n'est plus qu'une strate du présent, et qu'on peut revivre. Donc ça devient ça devient un abîme, en fait. Donc, et c'est ça moi, qui me passionne aussi.
Alors, Black Mirror, saison 7, elle est disponible hein, déjà en entier sur Netflix. Alors, Guillaume, ce vendredi, veille de week-end, vous vouliez nous parler d'une série, une série de coups de cœur.
Oui, je vais vous parler de The Real Soul, saison 2, qui est de Nathan Fielder, qui est sur Max, en ce moment, diffusé sur Max. Et c'est là, pour moi, la dernière étape d'une des œuvres probablement les plus originales, les plus profondes et franchement géniales de la création télévisée contemporaine. Alors, c'est une œuvre qui est compliquée à présenter parce que elle repose sur deux piliers. D'abord, le premier pilier, c'est le mockumentary, c'est-à-dire une sorte de parodie de documentaire. Et le deuxième pilier, c'est la personnalité de son créateur, Nathan Fielder, et animateur, parce qu'il intervient effectivement dans ses créations. Alors, le mockumentary, c'est parce que les créations de Nathan Fielder reposent sur l'idée de reprendre un peu les formules de la télé-réalité, notamment du pire de la télé-réalité, qui serait les émissions de coaching. Ces moments où on essaie d'améliorer le quotidien des gens, ou bien améliorer une société, une entreprise, ou un restaurant, de quelqu'un. Alors lui, dans Nathan For You, par exemple, sa première série, il consistait à essayer de relancer les affaires des candidat de sa télé-réalité. Et en trouvant des situations toujours plus absurdes, il avait à un moment inventé un faux Starbucks et en fait qui était devenu très important et que Starbucks avait fait un procès à ce faux Starbucks tellement ça avait pris de l'ampleur. Avec The Real Soul, je trouve qu'il a franchi un cap. Il y a 2 ans, c'était la saison 1. The Real Soul, ça consiste à quoi ? En quoi ? Ça consiste à recréer les conditions, à répéter des moments importants pour l'existence de ces candidats-là. Par exemple, ils ont une annonce à faire auprès de leurs proches. Ils ne savent pas comment ils vont le faire, eh bien Nathan Fielder va créer un décor, va faire amener des comédiens et va recréer la situation pour qu'ils répètent cette situation-là et qu'ils la passent du mieux possible par la suite, au moment où ils vont la vivre. Alors évidemment, Nathan Fielder, c'est aussi une personnalité très atypique. Hein. Lui se définit comme un humoriste, il est canadien d'origine, mais c'est un humoriste à froid, c'est-à-dire qu'on a là toujours l'impression de quelqu'un un peu autistique, qui est dans un sens très réflexif des situations et qui parle d'une voix blanche et qui met en fait toutes les situations dans une forme d'embarras social constant et qu'il joue comme un clown blanc là-dessus. Et dans The Real Soul, à un moment, il rentre dans son dispositif, c'est-à-dire qu'il n'est pas simplement l'animateur de ce dispositif-là, il va jouer dedans et à un moment, ça devient totalement vertigineux parce qu'on n'arrive plus à savoir si on a de la fiction, la réalité, ou alors s'il est en train de faire une sorte de mise en abîme et lui-même finir par se perdre dans son dispositif. Il finit par être complètement dépassé dans ce dispositif-là et qu'il concluait la première saison en disant finalement sa recréation ne fonctionnait pas. Alors ce qui est très beau dans la nouvelle saison, c'est comment il peut aller au-delà de ça. Et en fait, il crée une idée très simple, il s'est rendu compte que les accidents d'avion c'était dû à des mauvaises interactions entre pilote et copilote, et donc il va recréer les situations entre pilote et copilote, mais ça va amener qu'il va créer un aéroport, un habitacle d'avion, recréer American Idol, la série de télécrochet musical où c'est les pilotes qui vont juger les candidats chanteurs. Enfin, c'est complètement absurde, il crée des images totalement aberrantes, et tout ça pour nous dire à la fin finalement que l'être humain habite le monde en extraterrestre. C'est vraiment une série géniale.